RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Le Tour de France qui donc fait escale ce soir pour la dernière soirée en Corse. Les coureurs ont d'ailleurs décollé il y a quelques instants, décollé de Calvi direction la Côte d'Azur, direction Nice où la course se poursuivra demain avec le premier grand rendez-vous chronométrique de ce Tour de France, un contre-la-montre par équipe dans les rues de Nice sur la promenade des Anglais. En attendant, nous allons revenir sur cette course en Corse avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon dans un instant. La course en Corse a-t-elle été à la hauteur de vos attentes? On en parlera dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal des sports. La deuxième édition avec Jean-Louis Tour qui va évidemment revenir sur la course, sur cette troisième étape et sur ce demi-boyau d'avance qui fait tout le bonheur de Simon Gerrans.
Et oui, victoire de l'Australien Dorecao, sprint juste devant Peter Sagan, Sylvain Chavanel et Pierre Rolland ont bien tenté de s'extirper dans les derniers kilomètres mais sans succès. Le Tour qui empruntait pour la dernière fois les routes de Corse, Christian Prudhomme, le directeur de l'organisation de la Grande Boucle, était l'invité de l'Intégral Tour tout à l'heure sur RMC. Oubliez l'épisode du bus lors de la première étape, le passage sur l'île de Beauté sonne comme une réussite.
Un bilan formidable, nous avons eu en Corse ce que nous étions venus chercher pour la 100e édition. On voulait un départ inédit, on voulait un départ esthétique, on voulait un départ spectaculaire. Et on a eu tout ça, mais on a eu aussi une vraie ferveur dans les villes et les villages traversés. On a eu des gens qui nous disaient merci, ce qui n'arrive quasiment jamais. Il y a même un monsieur qui m'a embrassé la main. On a vu des panneaux enfin. Et nous n'avions peut-être pas mesuré. Et pourtant, je n'avais peut-être pas mesuré, et pourtant, j'ai évidemment voulu venir ici, à quel point les Corses et la Corse attendaient le Tour de France, c'était vraiment phénoménal.
Christian Prudhomme en direct sur RMC tout à l'heure, le Belge Yann Bakkeland, c'est toujours en jaune, on y revient jusqu'à 20h dans l'Intégral Tour, demain quatrième étape avec le contre-la-montre par équipe à Nice, à suivre toute l'après-midi sur RMC avec Christophe Cessieux et la Dream Team Tour de France. 5 millions d'euros pour un joueur de football de 17 ans, c'est sans doute du jamais vu, et c'est le transfert d'Anthony Martial, attaquant prometteur de Lyon, parti à Monaco. À la plus grande déception des supporters lyonnais. Lui est déjà tourné vers son nouveau défi monégasque. C'est un entretien exclusif RMC Sport.
C'est un grand défi pour moi. En plus, il y a des très grands joueurs qui arrivent en même temps. Donc, je vais pouvoir bien progresser et de pouvoir m'entraîner avec eux, c'est quelque chose de grand. Je suis très heureux d'avoir signé à l'AS Monaco. Ils ont un très grand projet et d'y participer à 17 ans, c'est vraiment exceptionnel. Bah, pour moi, c'est un club mythique en France. Ils ont une grande histoire et pour Variette, c'est très bien pour moi. On parle de Henry, Trezeguet et surtout de la finale de la Ligue des Champions.
Anthony Martial interrogé par Mohamed Bouafsi, entretien complet sur rmcsport.fr où vous retrouvez l'actualité du mercato en temps réel. Toujours en football, 11 clubs de Ligue 1 reprenaient l'entraînement aujourd'hui, première avec Laurent Blanc au PSG et retour également au terrain à Marseille où l'on retrouve Yann Pechera, le correspondant RMC Sport. Yann, séance plutôt détendue et ouverte au public pour le vice-champion de France.
Séance détendue, effectivement, aux abords des terrains de la commanderie pour la centaine de supporters venus acclamer les Olympiens pour la reprise de l'entraînement. Mais une séance studieuse et éprouvante pour le groupe de 23 joueurs présents cette fin de matinée, avec un travail foncier mené par Christophe Manouvrier, le préparateur physique, qui n'a pas ménagé les organismes des Olympiens sous un soleil de plomb. Et c'est justement pour fuir cette chaleur qu'Eli Bop et ses hommes partiront dès jeudi à Crans-Montana, en Suisse, pour un stage en altitude de 10 jours. Les Marseillais en profiteront pour disputer deux matchs amicaux face à Sion et Porto. Ils en profiteront également pour récupérer les internationaux français qui les rejoindront le 10 juillet, avec notamment la nouvelle recrue marseillaise, Dimitri Payet. C'est pour le moment le seul renfort marseillais de cette intersaison, mais le mercato est loin d'être terminé.
Merci Yann Pechral à Marseille pour RMC Sport. Ça, c'est le but de Neymar hier, commenté à la radio brésilienne. L'attaquant brésilien a à nouveau étincelant cette nuit en finale de la Coupe des Confédérations. Fred a inscrit un doublé pour compléter le but de Neymar et infliger cette claque à l'Espagne, double championne d'Europe et championne du monde en titre. 3-0 au Maracanã de Rio. Un grand moment pour Thiago Silva, le défenseur du PSG et capitaine de la sélection.
C'est une émotion unique. On est récompensé de notre grand match, pas seulement le mien, mais aussi et surtout celui de toute l'équipe. Mais on sait qu'il faut garder les pieds sur terre car on n'a encore presque rien gagné. Notre objectif, le vrai, c'est le mondial.
La victoire du Brésil de Thiago Silva, on en reparle ce soir dans l'After 21h avec Jean-François Pérez. Enfin, sensation à Wimbledon, élimination de la numéro 1 mondiale et tenante du titre, Serena Williams, battue par l'inconnue allemande Lizzie Kiss. 6-2, 1-6, 6-4. Comment expliquer cette surprise? Élément de réponse avec son entraîneur, Patrick Mouratoglou.
Serena a tellement bien joué à Roland-Garros, ça a été tellement bien sur terre que ça a peut-être été un peu plus dur que d'habitude de se mettre au gazon. Je suis même pas sûr que ce soit le cas. Mais en tout cas, c'est peut-être une explication au fait que c'est pas simple de se relancer juste après Roland-Garros. Faut que ça s'arrête un jour, c'est pas une machine. Il était évident qu'à un moment ou un autre, elle allait faire un match moins bon et qu'elle allait être battable. Comme en face d'elle, il y a eu la fille qui a fait le match qu'il fallait aujourd'hui et qui avait les atouts pour la battre. Absolument pas un coup d'arrêt, c'est une défaite. Voilà.
Patrick Mouratoglou interrogé par Eric Salio à Wimbledon pour RMC Sport côté français. Il n'y a plus qu'une rescapée, Marion Bartoli, se hisse en quart de finale après sa victoire sur l'italienne Knapp en deux manches. C'est terminé chez les hommes pour Kenny DeSchepper et Adrien Manarino. En ce moment, ça vient de se terminer pour Andy Murray, qualification face à Michael Juzny. En 3-7, c'est passé également pour David Ferrer et Juan Martin Del Potro. 19h12 sur RMC, 13 même. Calvi, c'est pas fini, on y retourne avec Christophe Cessieux pour l'intégral tour.
Et non, c'est pas fini, mais pas loin quand même, Jean-Louis. Ouais. Il ne reste plus que quelques heures ici avant de prendre le bateau direction la Côte d'Azur, direction Nice, le continent qui nous attend pour le reste de ce Tour de France. Encore un peu moins de 3 semaines de course et rien n'est décidé évidemment. Nous allons revenir sur le bilan de ce Tour de France en Corse avec toute l'équipe réunie autour de moi. Cyril Guimard tout d'abord, dit le druide pour les intimes. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir. Pardon. Non, bonsoir à tous. Non, le druide c'est pas pour les intimes, c'est pour tout le monde. Christophe.
Oui, oui, pour tout le monde. Le monde entier connaît ce surnom.
Ah oui.
Luc Leblanc dit Lucho, ça c'est pas pour les intimes non plus. Salut
bonsoir,
Lucho.
Bonsoir.
Et Bourgui dit Bourgui. Ah, Bourgui dans une petite minute, il sera avec nous. En attendant, on va revenir donc sur cette troisième étape qui s'est achevée tout à l'heure à Calvi avec la victoire de Simon Gerrans. Tiens, on va se remettre dans l'ambiance du direct, c'était tout à l'heure, les derniers kilomètres de cette course.
Peter Sagan, particulièrement bien placé. On aperçoit également le français Joaquin Rojas. Sprint lancé à 200 mètres par Simon Gerrans, le sprinter australien de l'équipe Orica Greenedge, débordé sur la gauche de la route par Monsieur Hulk. Hulk, Peter Sagan et Simon Gerrans qui terminent exactement sur la même ligne. C'est Simon Gerrans qui pour un boyau, disons-le. Simon Gerrans qui vient remporter la deuxième étape du Tour de France de sa carrière.
RMC Intégral Tour.
Voilà, Simon Gerrans, coureur australien de 33 ans, qui est loin d'être un inconnu, puisqu'il l'avait déjà emporté sur Milan-San Remo l'année dernière. Il a des victoires d'étape dans les grands tours. C'est un sacré concurrent, un sacré coursier, Cyril, qui, en plus, à la différence des autres sprinteurs, arrive à passer l'école. Certes, peut-être pas l'école de 30 km, comme ceux qui nous attendront dans les Alpes dans quelques jours, mais l'école de la Corse, il a réussi à les passer.
Bien, il a réussi à les passer, mais on a pu le voir remporter également le Sun Tour l'an dernier où il y a des petits cols. On l'a vu remporter d'ailleurs une étape sur le Tour de France, une étape où il y avait des cols, donc une étape de montagne il avait remporté. C'est parmi les coureurs les plus rapides, on va dire il est en deuxième rideau derrière les Cavendish, Greipel, mais à partir du moment où on est sur des parcours difficiles comme ceux de la Corse, il peut s'imposer dans la mesure où justement les sprinters aux grosses cuisses, comme vous dites Christophe, ont explosé sur les massifs. Donc il fait partie des meilleurs sprinters quand même. La preuve, Peter Sagan s'est brûlé les ailes aujourd'hui sur lui. En plus, il a fait son sprint un petit peu comme un pistard en laissant un écart entre lui et l'équipier qui l'emmenait pour pouvoir prendre un maximum de vitesse dans l'aspiration. Et Peter Sagan en a fait les frais.
Voilà, Peter Sagan qui pour la deuxième étape consécutive termine deuxième. Et il faisait grise mine tout à l'heure sur le podium, même s'il a tout de même pu récupérer le maillot vert. Celui qui avait un grand sourire, c'est évidemment Simon Gerrans, australien de 33 ans, vainqueur d'étape sur les routes de la Grande Boucle.
Ah oui, j'ai très très content. C'est une étape très technique. On a fait que monte et descente toute l'étape. On n'a pas eu une ligne droite il y a plus d'un kilomètre, je pense. Mais on avait une tactique pour l'équipe, avoir quelqu'un dans l'échappée et puis pour me protéger dans la finale. Alors, je suis très content pour finir le bon travail de mon équipe.
Simon Gerrans, australien, qui parle très bien le français, et pour cause, Lucho, je crois qu'il a été dans plusieurs équipes françaises.
Oui, il a été dans plusieurs équipes françaises, mais je ne te dirai pas lesquelles.
Ah bon, d'accord.
AG2R et Crédit Agricole.
Voilà, donc tu vois, je connais Gerrans.
Avec Vincent Lavenu et...
Quelles étaient les équipes françaises.
Je crois qu'il a été pendant 4-5 ans dans des équipes françaises, ce qui fait qu'aujourd'hui...
Non, mais il est toujours là, même avec son âge 33 ans. Bon, ben voilà, il a passé quand même Sagan. Il s'en est fallu d'un chouïa. Ouais. Il y aurait eu 5-10 mètres de plus Sagan passé, mais voilà, la ligne d'arrivée, elle était bien là et il a réussi à déjouer tous les pronostics, n'est-ce pas Cyril ?
Alors, Simon Gerrans qui remporte donc cette étape devant Peter Sagan. Le maillot jaune reste sur les épaules du Belge Backlands, vainqueur hier. Le maillot blanc sur les épaules d'un Polonais au nom imprononçable, Gwiatkowski. Le maillot de meilleur grimpeur, les poids rouges, c'est avec Pierre Roland qu'ils seront demain, les poids rouges. Et puis le maillot vert sur les épaules de Peter Sagan. Alors, Gerrans, Kittel, Backlands, c'est pas vraiment les noms qu'on attendait après 3 jours de course en Corse. Est-ce que cette course en Corse a répondu à toutes vos attentes ? Est-ce que vous avez vu la course à laquelle vous vous attendiez, que vous espériez voir ? Messieurs, on va peut-être commencer par toi, Cyril. Est-ce que tu t'es régalé ? C'est vrai qu'au niveau paysage, on s'est régalé. Au niveau intérêt sportif, est-ce que tu partages là
moi,
aussi ?
Moi, au niveau paysage, j'ai pas pu tout voir, bien sûr, puisqu'il y a des moments où on ne peut pas regarder.
Obligé de s'accrocher
mais ce que l'on a vu est formidable et ça je crois que le bilan de ce Tour de Corse sur le plan touristique sera de toute façon une réussite. Sur le plan de la course, je pense que on a eu une course relativement intéressante. Il faut savoir que ce soir plus de 70 coureurs sont déjà à plus de 15 minutes au classement général, ce qui veut dire que la course a été exigeante, les parcours étaient exigeants. Alors c'est vrai que le premier jour on a eu quelques chutes qui ont aidé un petit peu à faire en sorte que beaucoup de coureurs perdent du temps, non pas sur la première étape mais surtout sur la deuxième. Je pensais qu'une étape comme aujourd'hui pouvait éventuellement faire plus de dégâts, mais tout le monde en avait tellement peur que beaucoup de coureurs, beaucoup d'équipes qui ont des leaders pour le classement général sont restés un petit peu sur la réserve. C'est peut-être la seule réserve que je pourrais faire, mais en tous les cas, on a un Tour de France où aujourd'hui, il y a déjà des coureurs hors course.
Oui, et ça, c'est une grosse différence par rapport aux années précédentes, Lucho. Il y a des coureurs qui sont relégués à plus de 11 minutes, même un peu plus loin. Des garçons qui ont d'ores et déjà perdu le Tour de France, même si je pense que Jérôme Coppel n'espérait peut-être pas le remporter, mais en tous les cas pour le général il est très loin. C'est peut-être pas en Corse qu'on a gagné le Tour de France, mais c'est peut-être en Corse qu'on le perd. C'est souvent ça les débuts de Tour de France. Hein.
Mais oui, c'est pour ça que les débuts de Tour, et c'est vrai que c'est une première de faire le départ du Tour en Corse. On savait que ça allait être très très difficile déjà de par la chaleur, parce qu'il faut pas oublier que depuis le début de saison les coureurs sont habitués à courir sous la pluie avec du froid.
Mais ça c'est là, plutôt sympa non de,
oui,
d'avoir
non,
un peu de chaleur,
oui,
enfin.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des différences de température par rapport à il y a quelques jours où certains coureurs, même je dirais la majorité du peloton, ont fait des courses sous la pluie et le froid. Et c'est vrai que d'aborder le Tour dans des conditions de chaleur, je dirais pas extrêmes, mais 28-29 degrés, une météo comme celle d'aujourd'hui aussi, où l'étape était certes peut-être très courte, mais très sinueuse, très vallonnée, avec aucune ligne droite, c'est vrai que c'était très très difficile. Donc oui, moi je suis satisfait de ce début de Tour, parce que c'est vrai que ça a quand même...
Mais on espérait quand même
surprises.
Peut-être un peu la bagarre, non,
mais,
les favoris du classement général commencent à se frotter
là. Je voulais en arriver aussi.
On va attendre quoi ? Il va falloir attendre la dernière semaine.
Oui, mais on s'attend toujours quand on regarde des étapes comme même des grosses étapes de montagne avec plusieurs cols dans le final. On se dit mais ça va attaquer de tous les côtés. Il va y avoir la guerre. Il y a certains leaders vont exploser. Et puis en fin de compte, ça se regarde jusque dans le dernier col.
Mais pourquoi
ça
dans le Giro ou la Vuelta,
à 2 km de l'arrivée.
Les étapes comme ça, les étapes de moyenne montagne sont sujettes à des attaques, à des opérations de grande ampleur, alors que dans le Tour de France,
mais parce que dans les grands tours comme le Giro ou la Vuelta, la différence qu'il y a entre ces deux grands tours et le Tour de France, c'est que le Tour de France est le tour le plus médiatique au monde. C'est là où il y a le plus de pression et les coureurs n'ont
donc
pas
c'est
envie
surtout
de se lâcher.
La peur de perdre,
peur d'exploser, et les coureurs n'ont pas envie et surtout les leaders de se lâcher comme ça dès le début du Tour.
Ouais. Cyril.
Oui, je pense que si on a des courses un peu bridées sur des parcours qui auraient pu être des vrais parcours de combat, des parcours aujourd'hui c'était plus difficile qu'un Liège Bastogne. On aurait pu avoir pratiquement une course, presque une course classique aujourd'hui. Et là, effectivement, un certain nombre de coureurs auraient pu souffrir et perdre
sur une course d'un jour sur le même parcours.
Sur le même
des
parcours.
Garçons comme Valverde, comme
Gilbert,
Vauclair, comme
Gilbert,
comme
aussi,
Gilbert.
Et je pense surtout que c'est pas les coureurs qui ont véritablement la crainte d'attaquer.
C'est leur directeur sportif.
Je pense que c'est les directeurs sportifs qui se disent attendez,
il est bride.
On va pas prendre de risque.
Ah ouais, mais c'est...
Il faut assurer. Donc
c'est frustrant,
dès qu'il y a une descente relativement longue, technique, sinueuse. Bon, c'est un pléonasme ici de dire qu'une route est sinueuse. Systématiquement, l'équipe de leader se met en tête, et fait en sorte qu'il ne se passe rien parce que tout le monde a peur de quoi ? Peur de la crevaison, peur d'une chute, peur que une autre équipe d'un seul coup se mette à attaquer et là provoque une explosion du peloton. Personne n'a envie de ça. Donc les deux trois équipes qui ont peur de ça vont venir tout simplement essayer de figer la tête de peloton pour qu'il ne puisse pas y avoir d'attaque d'envergure, tout du moins.
Très bien, donc on reste un peu sur notre faim. Il faudra peut-être attendre
un
la dernière semaine,
fin,
la montée
oui.
de l'Alpe d'Huez, peut-être le Ventoux pour qu'il se passe des choses. C'est vrai que le parcours était fantastique, mais on reste sur notre
déjà,
faim.
Déjà, il va se passer des choses demain.
Mais on a vu des belles choses, hein. C'est l'essentiel finalement, c'est
tout
de
à
voir
fait.
Des belles choses sur la
et
route.
Et comme je dis, il y a quand même déjà plus de 70 coureurs à plus d'un quart.
Ah ouais, et ça évidemment.
Donc il s'est quand même passé un petit peu
oui,
quelque chose.
Il s'est passé des choses. Très bien, on va revenir dans un instant. On va retrouver Thierry Bourguignon dans le prochain débat, puisqu'on va s'intéresser à d'autres débats dans quelques instants. Mais auparavant, c'est l'heure du jeu sur RMC.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Comme tous les soirs, nous vous offrons donc 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Comment dit-on Pierre Roland en anglais ? Ah, si vous pensez que la bonne réponse est Rolling Stone, vous envoyez A par SMS au 732-16. Si vous pensez que la bonne réponse est Beatles, vous envoyez B par SMS au 732-16. On va voir qui sont les bilingues ici. Tiens, un petit indice. I can get no... Nanana. Non, voilà, j'ai pas d'indice. Tant pis. Des indices tout à l'heure. Le deuxième débat dans quelques instants sur RMC. On va s'intéresser à Sylvain Chavanel qui a une nouvelle fois tenté aujourd'hui, comme hier, mais qui s'est une nouvelle fois planté, comme hier, et comme la semaine dernière dans le championnat de France. C'est dommage. C'est un moteur extraordinaire que ce Sylvain Chavanel, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose. On va se poser la question avec Thierry, avec Luc et avec Cyril dans un instant.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
En direct de Calvi, au soir de la troisième étape du Tour de France, dernière étape Corse avant le retour sur le continent. Les coureurs du Tour de France qui ont décollé il y a une grosse demi-heure maintenant, qui sont en route vers Nice, où ils vont dormir ce soir, avant le contre-la-montre de demain, contre-la-montre par équipe, dont on parlera tout à l'heure avec Cyril, avec Luc et avec Thierry Bourguignon, qui nous a rejoint également. Il est avec nous. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
On est ravis d'accueillir Bourgui avec nous évidemment. Juste avant d'aborder notre deuxième débat, la question, est-ce que tu as été déçu par le côté sportif de cette course en Corse ? Est-ce que tu attendais plus de choses Thierry ?
Vous l'avez dit déjà dans le débat, on s'attend tellement à de belles choses pour une étape comme ça que ben, forcément on est déçu, on attend peut-être trop. Surtout d'une étape de début de tour comme ça, les gens sont craintifs, les attaques sont comptées, ça monte au train, donc il y a un maximum de coureurs qui peuvent suivre et je pense qu'ils ont peur de la suite.
Ouais, ils ont peur de la suite, ils ont raison d'avoir peur de la suite car il va se passer, on l'espère, beaucoup de choses avant l'arrivée sur les Champs-Élysées dans un petit peu moins de 3 semaines maintenant. Alors on va s'intéresser aux Français qui se sont mis en évidence aujourd'hui, notamment Sylvain Chavanel et Pierre Roland en allant chercher les points du classement de la montagne puisqu'il est ce soir une nouvelle fois le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Pierre Roland qui a semblé à l'aise hein, dans la dernière petite ascension de la journée. Alors on se posait la question tout à l'heure dans le direct, Cyril, de savoir si Pierre Roland devait se réserver pour essayer de décrocher ce maillot de meilleur grimpeur du Tour de France ou s'il devait abandonner ce maillot pour se concentrer sur le général. Et toi, tu nous disais, et je pense que tu vas le confirmer, tu nous disais qu'il le ferait mieux de se concentrer sur le maillot à poids parce que pour le général, tu le trouves un peu juste, notamment en ce qui concerne les contre-la-montre. Mais quand même, ce serait dommage d'abandonner toute ambition générale après 3 jours de course alors qu'il semble bien.
Oui, mais attendez, il y a deux choses. Il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ce que l'on annonce en termes d'objectifs, on essaye toujours plus ou moins de brouiller les pistes. Et c'est vrai que Pierre Roland ne peut pas partir avec l'ambition, si on fait preuve de bon sens et d'objectivité, en disant je pars sur le tour et je veux faire sur le podium. Pour pouvoir être sur le podium, il faut des qualités que Pierre Roland n'a pas, il en a d'autres heureusement, il n'a pas suffisamment de puissance contre la montre. Son niveau de performance contre la montre est trop faible, et jusqu'à maintenant, à moins qu'il nous fasse mentir sur ce tour, mais il perd en moyenne une minute par tranche de 10 km. Donc ça veut dire que lorsqu'on va avoir fini le dernier contre-la-montre, eh bien, il aura tout simplement déjà un débours de 5 minutes, auquel il faudra peut-être en ajouter une ou une et demie dans le contre-la-montre par équipe. Donc, on ne peut pas partir sur cet objectif-là, donc ne plus faire le classement de la montagne, donc ne plus se battre pour passer les côtes ou les cols en tête, mais uniquement essayer de suivre les grands leaders et d'attaquer dans la dernière ascension pour aller prendre du temps à des adversaires, ou du moins pour reprendre du temps à des adversaires avec qui il en aura pris.
Il termine 8e du Tour de France l'an dernier.
8e et 10e du Tour de France, à combien au classement général et à combien il termine du 3e?
Il termine l'année dernière, il est à 16 minutes effectivement.
Bah oui, 16 minutes. Oui.
Et il est à 10 minutes de Vincenzo Nibali.
Voilà. Bon, Christophe, vous venez de donner la réponse.
Ouais. Donc il peut éventuellement gagner encore 4-5 minutes, mais pas plus. C'est-à-dire le mettrait éventuellement dans le top 5. Le top 5, c'était Van Garderen, il était à 11 minutes. Donc 4 minutes de mieux que Pierre Roland. Ouais. Mais il ne peut pas faire plus.
Non.
Tu penses qu'il ne peut pas faire plus?
Non, ça n'est pas possible, sauf s'il part dans une échappée un petit peu à la Vauclair.
Oui, mais on ne va pas le laisser partir, lui.
Bon, il a déjà le classement de la montagne sur les épaules. C'est quand même un garçon qu'on ne laisse pas obligatoirement partir comme ça sans s'en occuper. Donc on va faire du tempo derrière. Les équipes de leaders savent le faire.
Ouais.
Donc, l'objectif qu'il peut avoir sur ce Tour de France, c'est victoire d'étape et maillot à poids.
Pas d'ambition pour le général, ce serait dommage.
Comment veux-tu qu'il y ait une ambition pour le classement général pour Pierre Roland? Mais on n'est pas défaitiste, on est réaliste. Tu regardes un petit peu, comme disait Cyril tout à l'heure, regarde le classement général de l'année dernière et d'il y a deux ans. Pierre Roland, il n'a pas progressé en l'espace de 2-3 ans dans le contre-la-montre. Comment veux-tu qu'il fasse dans les 5 premiers du Tour de France? Quand tu es confronté à des coureurs comme Froome, comme Contador, à la limite, il est kiff-kiff avec Andy Schleck qui vise le classement général. Mais tu ne peux pas rivaliser comme ça sur un Tour de France de 3 semaines en ayant une grosse perte au niveau du contre-la-montre dans cette discipline-là. Pour gagner le Tour, tu dois être bon partout. Et le problème de Pierre Roland, c'est qu'il est bon certainement dans les cols, un petit peu moins bon quand il s'agit de se placer dans les premières arrivées, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de se placer et il a un manque peut-être de concentration, mais c'est surtout le contre-la-montre individuel où il prêche énormément. Et puis il faut rajouter une chose, le contre-la-montre par équipe avec Europcar, ils vont perdre du temps par rapport à la Sky et aux autres formations.
Donc déjà, ça veut dire que demain soir il peut déjà
il commence le tour avec un débours de au moins 7 minutes.
Ouais.
Quand tu comptes tous les 3 chronos qu'il y a, il compte au moins au début de tour 7 minutes de retard déjà avant le premier jour.
C'était le même problème avec Richard Virenque.
Ouais.
Richard Virenque perdait autant de temps que Pierre Roland. Bon, sauf que il arrivait à faire des raids dans une grande étape de montagne où vous aviez 5 ou 6 cols, parce qu'il avait des capacités, une très grande capacité d'endurance. Et il marquait ses points sur une étape et après il assurait son classement de la montagne. Mais en faisant ça, on vient dans le classement général, on vient entre 5 et 10.
Ouais.
Mais pas au-delà.
Mais pas dans le top 5.
Mais je pense que le fait de dire qu'il fait le classement général, c'était quand même pour brouiller les pistes.
Très bien. Thierry, rapidement, ton avis sur Pierre Roland. Toi aussi, tu penses comme tes collègues qu'il faut qu'il se réserve pour le maillot à poids, pour le général. C'est d'ores et déjà râpé, c'est pas la peine d'espérer. Ah, on a un gros décalage avec Thierry Bourguignon.
Ah, je vais pas être sympa, je vais penser comme mes deux collègues.
D'accord.
Oui, vous m'entendez là ?
On t'entend Thierry.
Allô ?
Bon, on va passer à Sylvain Chavanel parce qu'il y a un gros décalage en fait. On n'arrive pas à voir bien Thierry Bourguignon, il n'arrive pas à nous entendre. Il y a un décalage de 4 à 5 secondes. Tiens, on va d'abord prendre Guillaume qui nous appelle au 32-16 pour nous parler des Français, de Pierre Roland d'un côté et de Sylvain Chavanel de l'autre côté. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous, comment ça va?
Ça va plutôt pas mal Guillaume. Enfin moi ils m'ont cassé le moral là quand même hein, de nous dire que Pierre Roland n'avait aucune chance de faire un top 5 voire monter sur le podium. Là franchement moi je suis complètement désabusé hein.
Déjà je voudrais passer un petit mot à Cyril que j'écoute religieusement sur Sport Plus à la télé.
Merci mon fils.
Il faut l'écouter surtout sur RMC hein, Sport Plus,
on s'en fiche. Sur RMC aussi, mais pendant l'année aussi à la télé. Oui, après, bon, Pierre Roland, je suis malheureusement d'accord. Je pense qu'on en fait un petit peu trop sur lui. Le problème, c'est que Pierre Roland, à la régulière, ne peut pas atteindre un top 5. Quand devant lui, il peut avoir un Froome, un Contador, un Vanguard-Rennes, dont il faudra faire beaucoup d'attention cette année. Parce que pour moi, c'est pas Cadel Evans, le leader de la BMC. Voilà, Roland à la régulière, il ne peut pas accrocher un top 5. Il va falloir qu'il fasse quelques raids. Le maillot à poids, c'est bien pour lui parce que il montre le sponsor Europcar qui recherche toujours un copartenaire. C'est une équipe de D2, ce n'est pas une équipe de D1.
Voir un sponsor principal, hein, puisque Europcar n'a pas encore confirmé qu'il continuerait.
Voilà, c'est une équipe de D2, ce n'est pas une équipe de D1, il faut bien rappeler. Pierre Roland n'a pas les capacités de rouleur. C'est d'ailleurs ce qui a manqué à Thomas Vauclair en 2011. Donc voilà, si on pouvait avoir un combiné Pierre Roland Sylvain Chavanel sur un coureur, franchement ça serait top pour la France.
Eh oui, ça serait pas mal, pas mal. Avec un mélange, non, Roland pour les capacités dans la montagne, Vauclair pour son intelligence en course, et Chavanel pour sa puissance.
Hein,
avec ça, on aurait le prochain vainqueur français du Tour de France.
On
n'est pas assez calé en génétique pour faire ça, à moins de leur faire un petit à tous les trois. On va essayer de se débrouiller. Merci Guillaume, en tous les cas, pour cet avis.
Merci mon fils.
Avis unanime.
Le
donc,
héros,
Pierre Roland.
Pas son successeur encore.
Ah non, malheureusement. Ah, peut-être on aura un débat sur Thibaut Pinot dans quelques jours. Sylvain Chavanel, justement, venons-en à lui. Sylvain Chavanel, qui, une nouvelle fois aujourd'hui, a tenté Lucho, il a tenté dans la descente, il a montré qu'il était vraiment très très fort, mais une nouvelle fois il s'est raté. Alors est-ce qu'il a eu raison d'attaquer? Est-ce que c'était pas suicidaire d'attaquer si près de l'arrivée dans ces circonstances?
Comme il dit, il faut bien attaquer à un moment ou un autre, hein. Si on se cache derrière la forêt, on n'y arrivera jamais. Mais bon, le problème de Sylvain, c'est que bon, il attaquait dans la descente et qu'il restait encore quand même une dizaine de kilomètres et qu'il y avait un petit vent défavorable et que le peloton est en bas de la descente était quand même qu'à 10 secondes, donc c'était pas suffisant pour Sylvain. Bon, il a tenté, comme hier. Mais le problème, c'est qu'il valait mieux rester au chaud aujourd'hui et regarder un petit peu le profil des prochaines étapes pour essayer de tenter quelque chose. Je pense qu'il y a l'étape Aix-en-Provence.
Mais il s'est pas vraiment grillé aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est grillé aujourd'hui? Demain, il y a le contre-la-montre par équipe. Il va devoir peut-être un peu appuyer.
Mais c'est pour ça qu'il faut compter ses forces. Et puis, vu qu'hier, il a quand même eu un gros échec, pourquoi retenter aujourd'hui?
Enfin, on était en train de dire tout à l'heure qu'il fallait qu'il se passe des choses. Sylvain Chavanel attaque, on est en train de le critiquer.
On le critique pas, je le dis simplement que Sylvain, s'il veut gagner des étapes, c'était peut-être pas le profil aujourd'hui adéquat à ses capacités. Tu regardes les prochaines étapes, par exemple Montpellier-Albi, peut-être que là, ça c'est une étape qui sera dans ses capacités.
Et pourquoi c'était pas dans ses capacités aujourd'hui?
Mais parce que c'était trop, il y avait
ça 10 tournait
secondes,
trop, ça donnait mal au cœur.
C'est pas ça, c'est que ça tournait pas trop, mais le final était trop roulant et pas propice aux attaques pour Sylvain Chavanel, c'est tout.
Cyril, rapidement.
Moi je pense que Chavanel, qui est un superbe coureur, est un coureur qui ne sait pas gagner, un petit peu à l'image d'un Zoutemelk ou d'un Raymond Poulidor.
Il en a gagné des belles quand même, un peu injuste.
Non, mais Poulidor et Zoutemelk aussi. Hein.
Oui.
Mais quand vous regardez le nombre de places de deuxième et quand vous analysez pourquoi ils n'ont pas plus de victoires, Chavanel, il lui manque le tout petit truc pour avoir un palmarès absolument fabuleux.
Regardes Cyril, je te coupe, mais tu regardes Sylvain Chavanel, tu sais, quand il est parti sur le plat aujourd'hui, il a quand même, c'est un sacré rouleur. Pourquoi il fait pas le dernier kilomètre?
Il peut faire le dernier kilomètre, mais je pense que Chavanel savait qu'il avait deux étapes pour aller chercher la gagne, parce que à partir d'après-demain, pas demain, mais à partir d'après-demain, sur les étapes de plat, eh bien, il y a un coureur qui va redevenir compétitif, c'est Cavendish. Et que là, il pourra pas sortir.
Il va devoir se mettre au service de Cavendish.
Et il va obligé de se mettre au service. Oui. Donc là, il avait deux étapes où il pouvait tenter. Et les deux fois, quand on veut trop tenter quelque chose en se disant ça va réussir, eh bien il manque le petit chouïa qui fait que vous allez à la gagne.
Thierry, ton avis sur Sylvain Chavanel, a-t-il eu raison d'attaquer, même si c'était un peu suicidaire aujourd'hui?
C'est un peu suicidaire, c'est vrai, parce qu'il y avait 90 gars encore avec lui. Alors mais il a pris des risques en descente, un très bon descendeur. Moi je pense que c'était il a joué son bateau, mais il a rien grillé comme force. Faut pas dire qu'il a grillé des forces pour l'avenir. Il tente, c'est vrai que il y avait un léger vent de face, il y avait beaucoup de gars pour rouler derrière et des sprinteurs. Il aurait fallu que ça attaque bien avant et c'est vrai que s'il avait été présent dans un groupe avec une descente comme ça sur l'arrivée, mais c'est bon, c'était pour lui. Bon, là, s'il tente pas là, bon, ben, à 10 bandes de l'arrivée, c'est pas grave, il va pas bouffer son énergie pour tout le tour. Et Cyril a raison. De toute façon, il aura peu d'occasion, puisque après, il va être obligé de se mettre au charbon pour son leader. Donc tous les sprints, ça va être, il va en bouffer de l'énergie.
Hein. Et puis on sait que ses coéquipiers ne travaillent jamais pour lui, de toute façon, hein, Sylvain. C'est pour ça qu'il est dans cette équipe belge, ça marche bien pour lui.
Parce qu'il aurait pu en gagner aussi.
Il aurait pu en gagner si certains de ses équipiers l'avaient aidé, notamment dans les classiques du mois de mars et du mois d'avril. Très bien. On va s'intéresser dans quelques instants à notre troisième débat. On va parier évidemment sur RMC et puis évoquer ce contre-la-montre par équipe demain dans les rues de Nice. Premier rendez-vous kilométrique. Chronométrique plus exactement de ce Tour de France. Et est-ce que la Sky, selon vous, va d'ores et déjà écraser le général dès demain? On en parle dans un instant. En attendant, comme tous les soirs, je vous offre le livre Le Contour des amis Serge Lager et Claude Maignan, un magnifique livre sur les Tours de France. Vous aurez toutes les stats, toutes les infos, toutes les histoires de ce Tour de France, de ces Tours de France, de ces 100 Tours de France. Pour tenter de gagner votre livre, vous envoyez tout de suite le mot Tour, T-O-U-R, par SMS au 7-32-16. Bonne chance, à tout de suite.
RMC Intégral Sport spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
19h46, le dernier quart d'heure de l'intégral Tour en Corse après 100 ans d'attente. Et oui, le Tour va quitter la Corse tout à l'heure. Les coureurs sont déjà sur la Côte d'Azur ou en train d'atterrir en ce moment et les suiveurs vont les suivre, c'est leur but, dans quelques heures avec le départ de 6 bateaux à destination de Nice. Il y a 6000 passagers à embarquer, il y a 2000 véhicules à embarquer, ça va être un grand chambardement tout à l'heure dans les ports de Corse à direction de la Côte d'Azur. Tiens, on va parier sur RMC et faire le bilan des paris du jour.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Et pour cela, nous appelons notre coteur préféré, j'ai nommé Benji Lamalisse, Benji Ramagé. Salut Benji.
Salut messieurs.
Salut.
Alors Benji, aujourd'hui, on n'est pas passé loin avec Cyril.
Alors, oui,
vraiment,
pas loin.
Vraiment d'un boyau, d'un demi-boyau. Si tu avais vu la tête de Luc quand il nous a vu battu avec Cyril, il était trop content.
Je m'en doute.
Guérance, est-ce que quelqu'un avait donné Guérance?
Non, à part dans le live betting, Cyril avait bien joué, évoqué, puisqu'il avait dit ça va jouer entre Guérance et Sagan. Donc effectivement, ça s'est joué entre Guérance et Sagan, mais ça vous permet quand même de marquer des points avec Cyril au classement du maillot vert. En revanche, il faut que Bourgui se réveille. C'est le seul dans la Dream Team qui n'a toujours pas de points au classement.
Ah ouais, mais ça c'est normal, c'est tous les ans pareil. Hein Bourgui?
Non.
T'attends la dernière semaine, toi, t'es un grimpeur, toi.
Ah non, non, je pense que tu fais preuve d'Alzheimer, là, toi aussi. Hein? C'est pas parce que l'an dernier, t'avais le maillot jaune que les autres étaient très, très loin.
Non, mais il a eu le maillot jaune, Thierry, l'année dernière, à un moment donné.
Oui, il l'a eu l'année dernière.
Ouais, sur le prologue.
Et puis après, j'ai eu peur, j'ai eu du mal en te voyant et je t'ai laissé ce beau et...
Des terribles, terribles maillots jaunes, maillots d'or. Alors Benji, les classements de ces paris, toujours Lucho en tête évidemment.
Oui, Lucho qui a toujours le maillot jaune, qui a toujours le maillot vert. Pour l'instant, pas de maillot à pois. Et puis le maillot blanc, on le sait, hein, c'est pour Georges.
Le maillot blanc ad vitam aeternam sur les épaules de Georges. Enfin, un jour, il ne l'aura plus. Hein, parce qu'un jour, il va finir par vieillir lui aussi.
Ouais, mais on ne sera plus là, mais on sera mort.
On sera au cimetière, t'as raison Benji. Quand il sera vieux, notre ami Georgie. Alors, étape de demain. On va d'abord la présenter avant de voir quels sont les principaux favoris. Enfin, ce ne sont pas des coureurs qui seront favoris demain, ce seront des équipes. Cyril, ce premier rendez-vous chronométrique dans le Tour de France, il y en aura trois. Celui-ci est par équipe dans les rues de Nice, sur la promenade des Anglais. C'est assez plat. Hein. On va pas monter dans les Préalpes et dans les Alpes-Maritimes.
Non, on nous a mis un parcours totalement plat avec la promenade des Anglais jusqu'à l'aéroport de Nice. Ensuite, on prend la vallée du Var. La vallée du Var, il n'y a pas de bosse non plus, ce sont que de grandes lignes droites. Donc les équipes qui seront les plus performantes, eh bien, c'est celles qui auront les plus gros rouleurs, les plus gros bulldozers. Il faudra bien sûr beaucoup de cohésion, de solidarité et puis de technique aussi, parce que ça se joue avec l'aspiration bien sûr. Et à ce petit jeu là bien, il y a quelques équipes quand même qui, ouais, qui dominent en permanence.
Alors moi je trouve ça bien dommage quand même qu'avec le terrain de jeu qu'il y a dans l'arrière-pays niçois, faire un contre-la-montre complètement plat, on aurait pu s'amuser à aller un peu...
Bah toi t'écouter, il faudrait faire tous les jours durs.
Tous les jours de la montre.
Attendez. C'est pas parce que c'est plat que c'est facile, bah, parce que le contre-la-montre par équipe est une des épreuves les plus difficiles, surtout quand vous êtes dans les deux ou trois qui sont le moins bien. Je peux vous dire que... c'est une horreur.
Qui baver, hein,
d'ailleurs, Thierry Bourguignon, dans les contre-la-montre par équipe, il allait brûler un cierge avant.
Ah oui, Thierry, c'est vrai, c'était pas ton truc.
Non, j'étais pas forcément dans les spécialistes, mais je finissais mon boulot correctement.
C'est-à-dire que tu restais avec tes camarades jusqu'au bout ou tu lâchais au bout de quelques kilomètres?
Oui, non, absolument pas.
Mais
premier tour, d'ailleurs.
Non, mais ce que je veux dire, Thierry, c'est que tu souffrais énormément.
Mais j'étais pas un spécialiste des chronos.
Voilà. Et ça. Voilà, t'es obligé de te battre et de t'accrocher.
Rapidement, rappelle-toi qu'en 91, on a quand même fait deuxième du contre-la-montre par équipe avec l'équipe Castorama.
Non, mais j'ai gagné même un chrono par équipe avec Toshiba à Paris-Nice.
Ouais. Ah bah alors, tu vois, vous avez la mémoire sélective.
Ce qui compte, c'est la cohésion et l'homogénéité de l'équipe. C'est ça qui est
arrivé. Oui, voilà,
de la technique. Façon, la technique, bien sûr.
C'est la technique, la cohésion, et puis
faut le travailler.
C'est pas ceux qui prennent le plus fort les relais, mais c'est... celui qui est le plus fort, il doit prendre le plus longtemps possible. Et Thierry Marie était un spécialiste et il le faisait très très bien comme ça.
Alors, mon cher Benji, quels sont les favoris, plutôt les équipes favorites donc demain pour ce contre-la-montre par équipe? J'imagine que la Sky de Chris Froome doit être pas mal, même si il faut quand même le noter, il y a deux blessés au sein de la formation Sky, Geraint Thomas et Yann Stannard qui ont chuté l'autre jour lors de la première étape, qui récupèrent petit à petit, mais ce sont quand même deux énormes rouleurs, hein, Cyril, et avec ces deux-là en moins.
Stannard a récupéré, Geraint Thomas, je ne suis pas certain qu'il fait de vieux os sur le tour.
Ouais. Donc voilà, ils ont deux éléments un peu fatigués. Benji, malgré tout, ils sont les favoris des coteurs.
Oui, alors juste pour éclaircir un petit peu les choses, il y a trois équipes vraiment qui se détachent. Un favori, c'est Garmin Sharp à 2,80, mais c'est très léger puisque derrière, on retrouve Omega Pharma Quickstep à 2,90 et Sky est à 4,20. Pour info, tu as raison de le préciser, Christophe, ça a fait un petit peu augmenter la cote de Sky puisque Sky était beaucoup plus bas, était à 3,10. Et ces petites blessures, vous parliez de cohésion, moi je vais jouer Omega Pharma puisque l'équipe a fait ses preuves en étant championne du monde de la spécialité, donc je vais jouer Omega Pharma Quickstep à 2,90.
Oui, mais par rapport à l'année dernière, là aussi il y a eu des blessés, hein. Il y a moins de monde, Cyril, non, chez Omega Pharma.
Chez Omega, il ne faut pas comparer le championnat du monde de l'an dernier qui était d'ailleurs...
Ils avaient mis tous leurs spécialistes là,
pas les mêmes coureurs.
Ce qui était quand même expérimental, et alors que là on est sur le Tour de France, ouais, où les équipes sont composées un petit peu différemment parce qu'il faut des
coureurs
complets, aussi des grimpeurs.
Oui. Donc Benji, tu vas te planter demain, ça je te l'annonce tout de suite. Ouais, t'as pas le droit de changer.
Pas la première fois.
Tu as donné ça.
T'as mis Omega. Hein.
Voilà, oui. Omega. Alpha, Beta, Omega. Thierry, tiens, puisque tu as la parole, toi tu vas nous donner quoi?
Moi je joue tranquille la Sky parce que j'y crois, même avec deux blessés, ils ont la machine tellement bien rodée, puis même fatigués, ils pourraient donner le meilleur.
D'accord, moi je vais donner la Garmin parce que je pense que les Sky justement sont un peu entamés, donc je pense que Garmin, on a entendu tout à l'heure certains de nos coureurs qui sont très très motivés pour décrocher cette victoire, donc moi je donne la Garmin demain. Cyril?
Bien, moi je vais peut-être vous surprendre, mais je vais aller voir les Radio Schalke. Je pense qu'avec le maillot à défendre, ils vont être surmotivés, et puis j'ai quand même fait quelques petites statistiques. Il faut savoir que l'équipe Radio Schalke, c'est l'équipe qui a le plus de coureurs dans la première à une seconde, enfin déjà à une seconde de leur propre leader.
Donc ils veulent le maillot jaune et ils peuvent
donc
le tenir demain.
Ils étaient 7 à avoir passé toutes les bosses correctement, alors que la Sky, ils sont seulement 4, la BMC 4, Astana 6 et Omega Pharma seulement 2. Donc je pars sur des bases solides avec Radio Schalke qui a un maillot à défendre et qui me paraît quand même pas mal structuré.
Très bien. Lucho, rapidement.
Bah écoute, moi je vais la jouer fine.
Pas, hein.
Non, je vais la jouer fine, hein, parce que comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a deux blessés dans l'équipe Sky qu'ils vont pas se mettre à rouler. Hein. Je pense que Froome, il va diriger l'équipe et il va mener de main de maître le tempo de l'équipe, donc je vais jouer la Sky.
Très bien. Qu'est-ce qu'il en dit, Henri-Pierre? Est-ce que la Sky va écraser la concurrence demain? Il nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, Henri-Pierre.
Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir toute l'équipe. Ben, écoutez, ça me fait plaisir de vous écouter, de vous entendre à nouveau. Mm-hmm. Oui, demain, je pense que la Sky va tuer le tour, quoi, tout simplement.
Pas tuer le tour.
Si, je pense que demain, pas tuer le tour dans le principe où, mais ils vont frapper un grand coup. Et demain, je pense qu'ils vont montrer que c'est eux les patrons. Et après, ben, ils géreront. Mais je crois qu'ils sont tellement rodés, ils ont tellement envie de ça, de toute manière. Et ils vont courir un peu en disant, le gros contre la montre, ça va nous permettre après de distribuer les cartes et de laisser un peu aux autres le choix de pouvoir faire des trucs. Mais en voulant montrer que c'est dorénavant eux les patrons, ils vont vraiment vraiment perdre. Je pense que les autres équipes dans la deuxième étape de Corse auraient peut-être dû être plus saignants pour essayer peut-être de les contrarier.
Je crois que
le Tour cette année, il peut se gagner, il aurait pu déjà se gagner s'il n'est pas déjà perdu pour les autres ou pour certains, sur l'instinct. Il faut se lâcher à l'instinct. Et si on cherche à mettre en place quelque chose de bien structuré, les Sky seront plus forts de toute manière. Si on leur laisse dans leur certitude,
ben
ils seront plus
bien
forts.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, Henri. Très bien, merci Thierry, on a plus trop de temps malheureusement. On verra demain. Donc on a bien compris que la Sky était quand même la grande favorite pour l'ensemble de nos coteurs et de nos parieurs. Voilà, c'est pour les paris, c'est terminé. Benji, on te retrouve demain pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, après les magnifiques paysages corses, ce sera pas mal, je vous promets, demain aussi sur la promenade des Anglais.
T'as pas honte de dire ça, Christophe.
François Giuseppi est là. Non, c'était
bonsoir,
beau aujourd'hui, c'était magnifique.
Tour.
C'était
bonsoir
magnifique, François.
Bonsoir à tous. Exactement.
Bon, hello. Remis de désillusion d'hier.
Oui, ça ira. D'ailleurs, on en parle dans quelques instants, puisque Basket Time, c'est la dernière de la première partie de la saison. On coupera 3 semaines, comme les basketteurs, et puis on reprendra avec le stage de l'équipe de France masculine cette fois. Les braqueuses sont à quelques mètres de nous, puisque Céline Dumerc, Isabelle Yacoubou et Pierre-Vincent, le coach, sont juste à côté. Ils attendent vos appels au 32-16. Les réseaux sociaux sont égales pour vous. Et dans la deuxième partie de l'émission, avec Jacques Monclar, bien sûr, de 20h à 21h, nous reparlons de NBA, puisqu'il y a 2 Français qui ont été draftés, choisis par des clubs outre-Atlantique pour jouer peut-être dès la saison prochaine avec Parker et compagnie. Voilà le programme de Basket Time. Christophe Cessieux restera comme le seul à avoir passé 4 jours en Corse et ne plus avoir de voix. Comme quoi, tout arrive.